Ivan Turgenev, Ça fait du bruit. Extrait d'un récit des chasseurs. Ce que j'ai à vous faire savoir, Barin, dit Yermolaï en entrant dans mon isba, je m'étais étendu après dîner sur mon lit de camp pour me reposer d'une chasse heureuse mais fatigante au coq de bruyère, faite au mois de juillet par une chaleur étouffante. Ce que j'ai à vous faire savoir, c'est que nous n'avons plus de plomb. Je sautais de mon lit. Comment plus de plomb? Nous en avions apporté près de 30 livres, tout un grand sac. C'est vrai, le sac était grand, il y avait du plomb pour 15 jours, mais qui peut tout prévoir? Un trou peut-être s'est fait au fond, ou bien autre chose, mais le fait qu'il n'y a plus de plomb, à peine pour 10 coups. Que ferons-nous donc? Nous n'avons pas encore entamé le meilleur endroit. On nous promet pour demain au moins 6 compagnies. Eh bien, envoyez-moi à Toulard. C'est pas loin d'ici, 40 verstes en tout. J'irai et je reviendrai comme un éclair et vous apporterai du plomb, si vous voulez, un pan tout entier. Mais quand iras-tu? À l'instant même. Pourquoi attendre? Seulement, il faudra louer des chevaux. Comment louer les nôtres? On ne peut pas se servir des nôtres. Le cheval de Brancard voit que c'est une horreur. Et depuis quand? Mais depuis tantôt, le cocher l'a mené à la forge et il l'a ramené boiteux. Le maréchal Ferrand était sans doute un âne. Maintenant, il ne peut même pas poser le pied de devant par terre. Il tient comme une chien à l'arrêt. Il attend du moins déferré. Non pas, mais il faudra sans doute, car le clou lui est entré dans la chair. Je fis appeler le cocher, et il se trouva que Yermolaï avait dit vrai. Je fis déferrer le cheval et donner l'ordre qu'on lui plaça le pied sur de la terre glaise humide. Eh bien, faut-il louer des chevaux pour aller à Toulard? Fit de nouveau Yermolaï. Mais où sera-t-il possible de trouver des chevaux dans un pareil trou? M'écriai-je avec dépit. Le village où nous avions séjourné était des plus misérables. Ses habitants semblaient tous des meurs de faim. C'est à grand-peine que nous avions trouvé une isba, non pas blanche, c'est-à-dire ayant une cheminée pour que la fumée s'en échappe, mais du moins assez grande pour nous loger. « Oh, c'est possible, » répondit Yermolaï avec son flegme accoutumé. « Vous jugez bien ce village. C'est pourtant c'est ici qu'a vécu un paysan bien riche et bien capable. Il avait 9 chevaux. Oh, il est mort maintenant. Et c'est le fils aîné qui mène tout. Ce fils est bête parmi les bêtes. Mais il n'a pas encore eu le temps de décrocher tous les biens du père. Je trouve peut-être des chevaux chez lui. Voulez-vous que je vous l'amène? Il a des frères qui sont de fameux lurons. Et pourtant, c'est lui qui est à leur tête. Mais pourquoi donc? Parce qu'il est l'aîné. Si t'es le plus jeune, soumets-toi. Ici, Yermolaï plaça une expression très énergique, mais qui ne peut s'écrire. Je l'amènerai, c'est un innocent. On peut le retourner comme on veut. Pendant qu'Yermolaï allait chercher l'innocent, je me demandais à moi-même, je ne ferais pas mieux d'aller à Toula. D'abord, averti par l'expérience, je n'avais en Yermolaï qu'une confiance fort médiocre. Une fois, j'avais envoyé à la ville pour faire des complètes. Il m'avait juré qu'il ferait toutes mes commissions dans la journée. Et il leur revint de 8 jours, après avoir bu tout mon argent au cabaret, et à pied, alors qu'il était parti dans un droski. Ensuite, je connaissais un maquignon à Toulon. Je pensais pouvoir lui acheter un cheval pour remplacer celui du brancard. C'est décidé, me disais-je à moi-même. D'autant plus que je pourrais dormir en route, car mon tarantasse ne se coupe pas trop les entrailles. Le voilà! S'écria un quart d'heure après Yermolai, qui entrait bruyamment dans l'isba. Il était suivi par un paysan de haute taille, vêtu d'une chemise blanche, de larges pantalons en toile bleue et de laptis, des souliers en écorce de bouleau. Sa barbiche rousse en pointe, ses yeux endormis, son nez gros et mou, sa bouche entrouverte lui donnaient en effet l'air d'un innocent. Il a les chevaux, dit Ermolai. Et il consent à tout. C'est-à-dire, dit le paysan, une voix enrouée et hésitante, en rejetant ses cheveux en arrière, en faisant glisser ses doigts sur le bord du bonnet qui tenait devant sa poitrine. Moi, c'est-à-dire. Comment te nommes-tu, lui demandai-je. Le paysan baissa les yeux et sembla rêver. Comment je me nomme? Oui, quel est ton nom? Oh, j'ai un nom, oui, je m'appelle Philolei. Eh bien, voici de quoi il s'agit, frère Philofey. On dit que tu as des chevaux. Amène-en trois. Nous attellerons à mon tarantasse. Qui est léger, nous irons à Toula. Il fait frais, il fait clair de lune. Comment est la route? Oh, la route, il n'y a rien à dire, il n'y a que 20 verstes jusqu'au grand chemin, un seul petit endroit de pas gentil, pour le reste, rien. Mais qu'est-ce que ce petit endroit? Un gué à traverser. Mais, interrompit Yermoulaï, est-ce que vous allez vous-même à Toula, Marine? Oui, moi-même. Allons bon, fit mon fidèle serviteur, hochant la tête. Et il sortit en frappant la porte d'épi. Le voyage à Toula ne lui offrait plus rien d'intéressant. Tu connais bien la route? Demandai-je à Philofey. Comment ne pas connaître la route? Que votre volonté soit faite. Cependant, je ne suis pas tout à coup comme ça. Yermolai s'était borné à dire: Sois tranquille, on te paiera, imbécile. Philofey, tout imbécile qu'il fût, ne pouvait se contenter d'une telle parole. Il me demanda 50 roubles. Je lui en offris 10 et nous nous mîmes à batailler. Yermolaï, qui venait de rentrer, voulut m'affirmer que cet imbécile, le mot lui plaît, dit tout bas Philofey, ne connaissait pas le compte de l'argent, il me rappela, à cette occasion, qu'une auberge construite par ma nièce, mère, il y a quelque 20 ans, sur un endroit de passage où se croisent deux grands chemins, était finalement tombé en ruine, parce qu'un vieux domestique dont on avait fait l'aubergiste ignorait réellement la valeur des monnaies et les avait valuées d'après la quantité, donnant par exemple 1 rouble d'argent pour 6 copecks en cuivre, tout en traitant de voleurs les passants qui l'hébergeaient. « Mais t'es un vrai Philofey, » dit enfin Yermolaï, qui sortit en frappant de nouveau la porte. Philofey ne répondit rien, comme s'il fût convenu en lui-même qu'il n'était guère décent de se nommer Philofey, bien que le vrai coupable fût le pape, qu'on n'avait pas assez largement payé le jour du baptême. Nous convînmes enfin de 20 roubles. Il alla chercher les chevaux, et bientôt on amena 5 pour que je fisse un choix. C'étaient d'assez bonnes bêtes, bien que leurs crinières et leurs queues fussent diablement emmêlées, et leur ventre gonflé comme des tambours. Philophaï était revenu, accompagné de 2 de ses frères, qui ne lui ressemblaient guère en effet. Petit de taille, les épaules carrées, le nez pointu, les yeux noirs, il avait bien l'air, comme les avait nommés Yermolai, de fameux lurons. Il bavardait beaucoup, mais ne laissait pas d'obéir à l'âme, à l'aîné. Il aurait voulu atteler dans le brancard le cheval gris, parce que, disait-il, celui-là descend très bien à la montagne. Mais Philophaï tint pour la bête velue. Et ce fut la bête velue que l'on mit au brancard. On bourra de foin ma tarentasse, on y fourra le collier de mon cheval boiteux pour l'essayer à celui que j'achèterais d'Atula. Et Philophaï, qui avait eu le temps de courir à la maison, en revint avec une longue houppelande qui avait appartenu à son père, un chapeau pointu et de grandes bottes frottées de goudron. Puis il s'installa avec solennité sur le siège. Je m'assis également et je regardais ma montre. Il était 10 heures un quart. Yerbrahim ne daigna pas même me souhaiter bon voyage et se mit à battre son chien. Philophaï agita ses rênes comme un sonneur de cordes de ses cloches, cria d'une voix de fausset: Partez, mes petits! Ses deux frères s'élancèrent chacun d'un côté et frappèrent sous le ventre les chevaux de volée. Et le Tarantas s'ébranla, sortit de la cour, dans la rue. La tête velue fit mine de retourner à son écurie, mais Philophaï le mit à la raison par quelques coups de fouet, et nous voilà hors du village, roulant sur une route assez unie, bordée d'épais noisetiers. La nuit était douce, calme, une vraie nuit de voyage. Un vent léger soufflait par moments, faisait en balancer les branches et tombait aussitôt, et de petits nuages argentés se tenaient immobiles dans le ciel, et la lune au zénith éclairait vivement tous les objets. Je m'étendis sur le foin et j'allais m'endormir lorsque me revint à la mémoire le petit endroit qui n'est pas gentil. Hé, Philophaï! Y a-t-il loin d'ici au gué? 8 verstes. 8 verstes, pensais-je, mais nous n'y serons pas avant 1 heure. Oh, j'ai le temps de dormir. Tu connais la route, Philophaï, bien sûr. Comment ne la connaîtrais pas? Si c'était pour la première fois, il ajouta sans doute quelque chose, mais je ne l'entendis pas, je dormais. Ce qui m'éveilla, ce ne fut point, comme il arrive quelquefois, l'intention de me réveiller au bout d'une heure. Ce fut un faible mais étrange clapotement près de mon oreille. Je soulevai la tête. Que diable est-ce? Je suis couché dans mon tarantas et, tout près du bord de la voiture, s'étend une large nappe d'eau, toute ridée et tremblotante aux rayons de la lune. Je regarde en avant. Sur le siège, la tête penchée, le dos voûté, se tient Philophaï, immobile comme une statue, et plus loin, au-dessus de l'eau murmurante, la ligne oblique de la Nunga avec les têtes et les coups des chevaux. Et tout cela est silencieux, comme dans un conte de fées. Mais qui diable est-ce? Je me retourne pour voir en arrière. Mais nous sommes au beau milieu de la rivière. Le rivage est à 30 pas de nous. Pilofey, m'écriai-je. Quoi donc? Répliqua-t-il. Comment quoi donc? Où sommes-nous? Dans la rivière? Ben, je le vois bien, mais si nous allons nous noyer. C'est ainsi que tu passes le gué. Mais tu dors, Pilofey, réponds donc. Je suis trompé un brin, dit enfin mon cocher. Pour mes péchés, j'ai pris trop à gauche. Maintenant, il faut attendre. Comment attendre, mais quoi? Il faut que la tête velue s'oriente, et du côté où il se décidera, il faudra aller. Je me dressais sur mon tas de foin. La tête du cheval de brancard ne faisait pas un mouvement au-dessus de l'eau. Tout ce qu'on pouvait voir à la clarté fort nette de la lune, c'est qu'une de ses oreilles se mouvait lentement, tantôt en avant, tantôt en arrière. « Mais il dort aussi, la tête velue !»« Oh non, marine, il est occupé à filtrer l'eau !» Et là, tout retomba dans le silence. On n'entendait que le bouillonnement léger du courant. Cette lune, cette nuit, cette rivière, et nous dedans, je finis par me pétrifier moi-même. « Qu'est-ce que ces sifflements ?» demandai-je à Pilofey. « Ah, ça, ce sont des canetons dans les joncs, ou bien des couleuvres. » Et tout à coup, la tête du cheval de brancard s'agita violemment, ses oreilles se dressèrent, il souffla bruyamment. « Hu, hu !» cria Pilofey à tue-tête, et se dressant de toute sa hauteur, il fit des ronds avec la corde de son fouet. Aussitôt le tarantas fut comme arraché et lancé en avant à travers le flot. Puis il avança en cahotant de droite et de gauche. Et dans le premier moment, il me sembla que nous descendions encore plus bas. Mais après les secousses et les plongeons, la nappe d'eau sembla tout à coup baisser. Elle continua à fuir, tandis que le tarantas se grandissait hors de l'eau. Et voilà qu'apparurent tout à coup les queues des chevaux et les roues de la voiture. Puis enfin, soulevant les grandes gerbes humides qui s'éparpillaient en diamants, non, en saphir, à la lumière bleuâtre de la vulde, nos chevaux nous lancèrent d'un trait sur le rivage sablonneux et continuèrent à suivre la route monstrueuse en la frappant avec élégance et en mesure de leurs pieds mouillés et luisants. Eh bien, me vint-il alors à l'esprit, est-ce que Pilofey me dira « Vous voyez bien que j'ai eu raison, ou quelque chose d'approchant. » Mais il ne dit pas un seul mot. C'est pourquoi je n'ai pas devoir non plus lui reprocher sa maladresse. Et m'étant de nouveau blotti dans le foin, j'essayais de reprendre mon somme. Je ne pus toutefois m'endormir, non pas que je me fusse assez fatigué de la chasse, ou que l'inquiétude me tint encore les yeux ouverts, mais le pays que nous traversions était vraiment trop beau pour qu'on cessât de le regarder. C'était des prairies à perte de vue, grasses, herbeuses, touffues, coupée d'une foule de petits lacs, de mares, de ruisseaux, et de ces anses circulaires laissées par la débâcle des glaces, dont les bords sont couverts d'aunes et de saules. Ces prairies, libres et riches, comme le nomme le peuple russe, lesquelles parlent déjà nos vieilles légendes, à propos des preux du cycle Kiev, des compagnons de Vladimir, le grand Knias Slave, lesquels allaient y chasser le cygne blanc et les oies grises. Le chemin bien foulé se déployait devant nous en rubans onduleux. Les chevaux couraient allègrement, et moi, je regardais de tous mes yeux, et tout cela glissait si mollement, harmonieusement, à nos regards, sous la main. Et Philophile lui-même en fut touché. Ces prairies, dit-il en se retournant vers, portent chez nous le nom de Saint-Georges, et plus loin, commencent les prairies des vieux grands-ducs. Oh, il n'y a point de pareil dans toute la Russie. Elles sont si belles. À ce moment, la tête velue s'ébroua. Que Dieu t'assiste, aussitôt Philophile d'une voix grave et basse. Elles sont si belles, répéta-t-il avec un profond soupir. La fenaison va bientôt venir, et ce qu'on y fera de meules de foin est à ne pas le croire. Et que de poissons dans tous ces lacs, des brèmes si grasses. Un seul mot suffit. L'homme qui vit ainsi n'a pas besoin de mourir. Et il éleva tout à coup la main. Voyez, voyez, là, au-dessus de l'eau. Est-ce un héron? Est-ce qu'il prendrait du poisson même pendant la nuit? Puis il se mit à rire. Oh, sot que je suis, c'est une branche que j'ai prise pour un héron. La lune nous trompe toujours. Longtemps nous roulâmes à travers ces prairies, mais enfin elles cessèrent. De petits bois apparurent, puis des champs cultivés, puis un village lointain se laissa deviner à des deux ou trois points de feu. Il ne restait plus que 5 verstes pour atteindre le grand chemin. Je m'endormis. Et ce fut encore non de moi-même que je m'éveillai. Cette fois, ce fut par la voix de Philothée. Marine, Marine! Je me soulevai. Le Tarantas s'était arrêté au beau milieu de la grande route, dans une plaine absolument plate. Se retournant vers moi de son siège et ouvrant ses yeux tout grands, je ne m'étais pas imaginé qu'ils fussent ainsi, il murmurait d'une voix mystérieuse « ça fait du bruit !»« Que dis-tu ?»« Oh, je dis, Marine, ça me fait du bruit !»« Penchez-vous et écoutez. Entendez-vous » Je sortis la tête du Tarantas. Je retins ma respiration et j'entendis en effet, loin haut, bien loin derrière nous, comme un bruit faible et intermittent de roues roulantes. « Vous entendez ?» répéta Philophile. « Oui, oui, répliquai-je. Oh, c'est une voiture quelconque. Mais n'entendez-vous pas là maintenant des grelots et quelqu'un qui siffle ?» Ôtez donc votre bonnet, vous entendrez mieux. Je n'ôtais pas mon bonnet, mais je tendis l'oreille. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu en conclus? Philophile se retourna du côté des chevaux et rassembla ses rênes. Oh, c'est une téléga, non chargée, dit-il, et les roues sont ferrées. Oh, ce sont de mauvaises gens, Marine. On fait de mauvais coups dans les environs de Toula. Quelle folie! Pourquoi supposes-tu que ce sont de mauvaises gens? Allez, je ne me trompe pas. Des grelots, une télé à vide et des gens qui sifflent. Qu'est-ce que ça peut être? Y a-t-il encore loin d'ici à tout là? Oh, 15 verstes et pas une habitation. Eh bien, file et ne lambine pas. Fit la fille, fit classer son fouet, et le tarantas se remit à rouler. Bien que ne donnant pas créance aux propos de Filofey, je ne pus cependant pas me rendormir. Si pourtant, c'était une sensation désagréable. Je restai assis dans le tarantas et me mis à regarder de droite et de gauche. Pendant mon sommeil, un léger brouillard s'était formé, non pas sur la terre, mais à la hauteur des nuages, et la lune semblait prendre là-dedans comme une tache blanchâtre. On voyait un peu plus clair en bas, mais cependant tout semblait terne et blafard. Tristes endroits que nous traversions. Les champs et encore des champs, et quelques ravines pleines de broussailles, et encore des champs, presque tout en jachère. À peine passâmes-nous de quelques mauvaises herbes. Tout était vide, mort, pas même une caille qui chanta. Nous allâmes ainsi pendant une demi-heure. Philophée ne cessait d'exciter ses chevaux, mais ni lui ni moi ne prononçâmes une seule parole. Arrivé au sommet d'une petite colline, Philophée arrêta ses chevaux. Ça fait du bruit, Barine, ça fait du bruit! Je me penchai hors du tarantas. Mais j'aurais pu rester sous la capote, tant m'arrivait clairement, quoique encore lointain, le bruit des roues d'une téléga, les sifflements de plusieurs hommes, le tintement des grelots et jusqu'au martèlement du pied des chevaux sur la route. Il me sembla même entendre des chants et des rires. Il est vrai que le vent portait de là-bas, mais sans nul doute, les voyageurs inconnus avaient gagné une ou peut-être 2 verstes sur nous. Philophée et moi nous échangeâmes un regard. Il enfonça son bonnet sur les yeux et, serrant les rênes, il fouetta les chevaux à tour de bras. Ces 3 bêtes partirent au galop, mais elles ne purent longtemps soutenir cette allure et se remirent au trot, malgré tous les efforts de Philophée et les coups qui pleuvaient. Je n'aurais pas pu dire pourquoi, n'ayant point partagé d'abord les soupçons de Philothée, mais je me sentais tout à coup persuadé que c'était en effet de mauvaises gens qui nous suivaient. C'étaient toujours les mêmes bruits, les mêmes grelots, les mêmes sifflements, mais je ne doutais plus. Philothée ne pouvait se tromper. Une 20aine de minutes se passèrent encore, et parmi le tapage du tarantas mené grand train, nous entendions déjà le bruit de l'autre voiture. Arrête, Philophée, dis-je, il faut en finir. Philophée fit entendre un brouh primitif plaintif, et les chevaux s'arrêtèrent aussitôt, enchantés de prendre du repos. Grand Dieu! Les grelots hurlent derrière mon dos. Des hommes crient, sifflent, chantent. La téléga fait un bruit de ferraille. Les chevaux souffrent et battent la terre. Nous sommes rattrapés. Malheur, murmure Philophée. Il allait remettre son attelage en marche, quand tout à coup, avec un fracas épouvantable, une grande téléga, attelée de 3 chevaux, efflanquée, passa près de nous comme un tourbillon et, lancée ventre à terre, s'arrêta brusquement devant notre voiture pour se mettre au pas. Oh, vraie manière de brigand! Balbutia Philophée. J'avoue que mon cœur se serra dans ma poitrine. Je regardais avec effort à travers cette brume confuse. Devant nous, dans la télégra, les uns assis, les autres couchés, se tenaient six hommes en chemise rouge, l'armirac jeté sur les épaules. Deux étaient sans bonnet. Des jambes, en jambes en grandes bottes, pendaient hors de la terre et les gars. Et des mains s'élevaient et retombaient en désordre. Évidemment, ces gens étaient ivres. Les uns chantaient à tue-tête, un eux sifflait d'une façon claire et perçante, un autre jurait à se déchirer la bouche, et sur le siège d'avant se tenait, les rênes en main, une espèce de géant vêtu d'une pelisse en peau de mouton. Ils allaient au pas et ne semblaient pas faire à nous la moindre attention.
Que faire ? Nous les suivîmes également au pas. Pendant un quart de verste, nous marchâmes de cette façon. L'attente était anxieuse. Se sauver, se défendre, impossible. Ils étaient six. Je n'avais pas seulement un bâton. Retourner en arrière, ils nous rattraperaient en un clin d'œil. Il me vint à la mémoire un vers de notre poète Joukovski, là où il parle de l'assassinat du maréchal Kamensky. La hache d'un vil brigand. Ou bien on te serre la gorge avec une corde boueuse et on te jette dans le fossé et râle tout ton sou comme un lièvre pris au lacet. Horreur. Et il continuait à marcher au pas et à ne pas nous faire d'attention à nous. Philophée, lui dis-je à voix basse, essaye de prendre un peu à droite, comme si tu voulais les dépasser. Philophée essaya et prit à droite, mais les autres prirent à droite également. Impossible d'avancer. Philophée essaya encore et prit à gauche, mais on lui barra de la même façon le chemin. Et on rit, même dans la téléga. Mais de vrais brigands, me glissa Philophée à sur son épaule. Mais qu'attendent-ils donc, dis-je également à voix basse. Là, devant nous, dans le creux, voyez-vous, ce petit pont sur le ruisseau, eh bien, c'est là qu'eux et nous. Il faut toujours leur coup près des ponts. Oh, notre affaire est claire, Barine, ajouta-t-il avec un soupir. On ne nous lâchera pas vivants, car leur principal souci, c'est qu'il ne reste pas un coq pour chanter. Il n'y a qu'une chose que je regrette, Barine, c'est que ma pauvre petite Troïka est flambée. Mes frères même n'en hériteront pas. Je me serais étonné qu'en un moment pareil, Philophée pût penser à ses chevaux. S'il avait dû songer à moi, ils me tueront, mais pourquoi? Je leur donnerai tout ce que j'ai. Le petit pont se rapprochait et devenait de plus en plus visible. Tout à coup, un cri perçant retentit. La téléga sembla s'élancer en avant comme un oiseau et, arrivé près du pont, s'arrêta brusquement, un peu hors du chemin. Ah oui, notre affaire était claire. Pierre, frère Philophée, lui dis-je, nous allons ensemble à la mort. Pardonne-moi d'avoir causé ta perte. Mais quelle faute as-tu faite, Marine? Est-ce que c'est pour éviter son sort? Allons, tête velue. Bon, mon cheval fidèle, va, frère, en avant. Rends-moi le dernier service, à la grâce de Dieu. Il mit sa troïka au trot et nous commençâmes à nous rapprocher du pont et de cette terrible téléga qui nous attendait immobile. Tout en elle avait fait silence. Rien ne bougeait. Ainsi fait le brochet, l'épervier, tout animal de proie, quand la victime s'approche. Nous voilà sur la ligne de la Téléga. Le géant en pelisse bondit du siège et vient droit à nous. Il ne dit pas un mot à Philophaye, mais celui-ci, de lui-même, tira sur les rênes et la tarentas s'arrêta. Le géant posa ses deux mains sur la portière et, penchant en avant sa grosse tête chevelue, affectant un sourire, il prononça de cette voix goguenarde et futée habituelle aux ouvriers de fabrique en Russie le petit discours suivant. « Respectable seigneur, nous sortons d'un honorable festin, d'une bonne petite noce. Nous venons de marier un de nos gars, et si bien avons-nous festoyer qu'il en est resté couché par terre. Nous sommes tous de jeunes lurons, des têtes chaudes. Nous avons bu à gogo, mais nous n'aurons pas de quoi prendre la goutte du matin pour nous dessouler. N'auriez-vous pas la grande générosité? Oh, ne vous feriez pas la grâce de nous allonger quelque petit argent, seulement pour qu'il y ait une bouteille par museau? Nous la boirions à la santé de votre honneur. Mais si vous ne voulez pas nous faire cette grâce, alors, ma foi, ne vous fâchez pas si... » Qu'est-ce à dire, pensais-je? Est-ce une dérision, une moquerie? Et le géant continuait à se tenir contre le tarentas. En ce moment-là, lune perça le brouillard et lui éclaira le visage en plein. Tout souriait dans ce visage, les yeux, les lèvres. Nulle menace, mais je ne sais quelle étrange attente. Et puis ses dents, si blanches, si longues. « Moi, avec plaisir, » m'écriai-je. Et tirant de ma bourse, j'y pris 2 roubles d'argent. On en voyait encore en Russie dans ce temps-là. « Allez, si cela vous suffit... » « Oh, merci bien !» cria le géant à la façon des soldats. Et ses gros doigts m'arrachèrent aussitôt, non pas toute la bourse, comme je m'y attendais, mais seulement les 2 roubles offerts. « Merci bien !» Il secoua sa gruyère et courut à la craie les gars. « Enfant !» cria-t-il. « Monsieur le voyageur vous fait cadeau de 2 roubles !» Ses camarades lui répondirent par un hourra général. Le géant s'aplatit sur son siège. « Au plaisir de vous revoir !» Et tout fut dit. Les chevaux partirent comme des flèches. La téléga grimpa la montée, se dessina un moment sur la ligne sombre qui séparait le ciel de la terre et disparut. Plus de cris, plus de grelots, plus de bruit, silence de mort. Il se passa un moment avant que nous fussions revenus à nous, Philophaye et moi. « Oh, le drôle de garçon !» dit-il enfin. Et ôtant son chapeau, il se mit à faire des signes de croix. « Vraiment drôle !» ajouta-t-il en se retournant de mon côté, le visage rayonnant de joie. Et ça doit être aussi un brave homme. Allons, allons, petits amis, qu'on se dépêche. Il ne vous arrivera rien, il n'arrivera rien à personne. C'est lui pourtant qui nous empêchait de passer, qui tenait les rênes. Drôle de garçon. Hu, hu, en avant! Je ne disais rien, moi, mais je sentais pourtant un certain bien-être. « Il n'arrivera rien à personne, » répétais-je aussi. « Ça ne nous a pas coûté gros. » J'eus même quelque honte de m'être rappelé le vers de Joukovski. Et une pensée me traversa la tête. « Philophaye, » dis-je. « Quoi ? Es-tu marié ? Oui, je suis marié. As-tu des enfants? Oui, j'ai des enfants. Mais comment se fait-il donc que tu ne te sois pas souvenu d'eux? Tu as regretté tes chevaux et ta femme et tes enfants. Mais pourquoi les aurais-je regrettés? Ne serais-je pas tombé aux mains de bandits? Mais je l'ai tenu tout le temps dans mon esprit, et maintenant encore et toujours. Philotheï se tut un instant. C'est peut-être pour eux que le Seigneur Dieu nous a fait grâce, à toi et à moi. Mais puisque ce n'étaient pas des brigands, qu'en sais-tu? T'as-tu jamais fourré dans l'âme d'autrui? L'âme d'autrui, comme dit le proverbe, c'est la noire nuit. Tandis qu'avec Dieu, rien de meilleur que cela. Oh, mon mari, vois-tu, pour moi, ma famille, et avant, mes petits, en avant. Il était presque le jour quand nous approchâmes de Toula. J'étais plongé dans l'oubli d'un demi-sommeil. Marine, me dit tout à coup Philophèle, regardez un peu. Ils se sont arrêtés au cabaret. Voilà leurs télégars. En effet, c'était leurs télégars, leurs chevaux. Sur le seuil du cabaret apparut soudain notre connaissance, le géant en pelisse de mouton. Seigneur, s'écria-t-il en agitant son bonnet, nous achevons de boire votre argent. Et moi, vaillant cocher, ajouta-t-il en hochant la tête. T'as eu peur, hein? Cet homme est bien gai, dit Philophaï quand il fut à 100 pas du cabaret. Nous entrâmes enfin à Toula. J'achetai du plomb et d'occasion du thé et du vin, et même un cheval chez le maquignon. Nous remîmes en route vers midi. En repassant par l'endroit où pour la première fois nous avions entendu le bruit de la téléga, Philophaï, qu'un coup bu à Toulon avait mis de bonne humeur, à ce point qu'il me racontait les contes de vieilles, Philophaï se mit tout à coup à rire. Te souviens-tu, Marine? Comme je te disais toujours, ça fait du bruit. Ce mot lui semblait extrêmement comique. Il en riait tant qu'il agitait les deux mains. Le soir même, nous revînmes à son village. Je racontai l'aventure à Yermolai, et comme il était à jeun, il ne me témoigna aucun intérêt. Il se contenta de faire un bruit, soit d'approbation, soit de reproche, ce qu'il ne savait sans doute pas. Par lui-même. Mais 2 jours plus tard, il m'informa, avec une satisfaction visible, que dans la même nuit et sur la même route, un marchand qui allait à Toula avait été dépouillé et assassiné. Oh, je ne crus pas d'abord à cette nouvelle, mais il fallut me rendre, car la vérité du fait me fut certifiée par un officier de police qui était venu sur les lieux pour l'instruction du crime. Ne serait-ce pas de cette noce que revenaient nos lurons? Et ne serait-ce pas ce gars qu'ils avaient couché par terre, sur l'expression du géant goguenard? Je restai encore 5 jours dans le village de Telloreille et je ne manquais pas de lui dire. Chaque fois que je le rencontrais, ça fait du bruit. C'est un garçon très gai, répondait-il chaque fois en éclatant de rire.